J'ai le plaisir d'accueillir nos invités pour cette partie magazine et c'est un premier roman remarquable que publie Claire Baglin. Elle publie En salle aux éditions de Minuit, un livre apparemment autobiographique qui procède d'un mouvement d'aller et retour entre enfance innocente et vie active d'une adulte. Le décor principal est commun, c'est un fast-food américain où l'enfant déjeune en famille avec beaucoup d'excitation et où, adulte, elle subit la dureté du travail aliénant. La famille, Jérôme, un père ouvrier, bon bricoleur, une mère aux allures de mégère, Nico le petit frère et la narratrice avec qui il forme une équipe éphémère des bons et mauvais moments, sans oublier des grands-parents dans leur univers repoussant et hostile. Et tout de suite, avant de postuler à un emploi, des souvenirs d'enfance de Claire Baglin. C'est un extrait de son livre, tout simplement. Là, on s'installe là. Les parents nous suivent jusqu'à une table de bar au milieu du restaurant. On jette nos manteaux sur les tabourets et ils retombent. On ouvre les emballages, mais maman nous arrête. On va aux toilettes d'abord. Alors qu'on court vers la dernière étape qui nous sépare de la béatitude, maman parvient à retenir Nico par la manche. Il n'a plus rien d'humain. Ses cheveux sont ébouriffés par l'électricité statique du manteau retiré. Ses joues sont rouges, ses lacets traînent encore au sol et son pull est à l'envers, l'étiquette luisante de salive. Son visage est une énorme contrariété. Il est fou. Il veut en finir. Dans ses yeux brillent encore les nuggets qu'il a entrevus. Je pousse la porte des toilettes et Nico la retient de toutes ses forces. Nous crions parce que nos voix résonnent. Maman tient la porte derrière nous et se retourne. Voit mon père attaquer ses frites, la lanière de sa sacoche enroulée deux fois autour de son poignet. Nico est déjà loin. Je rince mes mains et en sortant, le battant que je pousse vient buter contre une plante verte, elle se renverse à demi. Derrière moi, maman se fâche comme elle sait le faire dans les lieux publics. Non mais c'est pas possible, fais attention un peu. Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bonjour Claire Baglin.
Bonjour.
C'est du vécu.
C'est du vécu, ça pourrait ne pas l'être. C'est, j'ai souvent, en tout cas, ce que j'aime bien souvent dire, c'est que ça pourrait être aussi bien un vaste mensonge que... Je pourrais autant dire ça que tout est vrai finalement. En fait.
On va garder le mystère alors, bien si sûr. Vous voulez bien. Mais en tout cas, il y a des choses en filigrane dans votre livre qui sont magnifiques. Là, on l'a vu, ce sont des enfants qui vont à la fête. Quoi. C'est la sortie au McDo. Et, enfin, je suppose que c'est un McDo. Je ne sais pas si c'est cité, mais en tout cas, bon, ils sont tous pareils de toute façon. C'est la fête, véritablement. Et là, on sent la famille qui est submergée par le dynamisme, l'enthousiasme des enfants.
Oui, tout à fait. C'est une vraie, un vrai événement, une vraie occasion, en tout cas à ce moment-là. Mais c'est vrai aussi que, en fait, cette scène ouvre le roman, vient faire en fait une alternance avec l'entretien d'embauche de la narratrice du côté du fast-food, mais de derrière le comptoir, on pourrait dire. Et les enfants ne retourneront plus au fast-food puisqu'ils en sortent pour ne plus jamais y retourner de tout le roman. Il y a vraiment un caractère d'occasion et d'exceptionnel qu'on retrouve pas du tout dans les autres souvenirs, et là on rentre davantage dans ce qui pourrait s'appeler leur vrai quotidien d'enfant en fait.
Alors effectivement, et c'était volontaire, vous vous en doutez, j'ai gommé la première partie qui est ce dont vous parlez, l'entretien qui ouvre votre récit. Elle se fait embaucher et puis elle est encadrée par Chouchou. Alors Chouchou, c'est une manageuse qui est plutôt, on va dire, bien dans le système. Chouchou, il y a de très beaux portraits dans votre livre et je vais vous lire le portrait de Chouchou, nous allons y revenir après. Chouchou, donc c'est son employé, son employeur, pardon, c'est sa manageuse et la narratrice est embauchée au fast-food. Chouchou a peur que je m'ennuie, alors elle me propose des activités. Faire un tour de balayette, changer les poubelles comptoir. Elle veut savoir si ça ne me dérange pas de nettoyer les toilettes. Je n'ai pas le temps d'y aller, qu'elle se tourne vers une autre équipière et lui dit... Mais c'est pas possible, tout le monde sait le faire, pourquoi pas toi? Si je t'évalue, je te mets même pas la moyenne. Changer une poubelle en plein rush, mais c'est n'importe quoi. Comme elle ne connaît pas mon prénom, elle ne m'apostrophe pas, et quand elle n'en peut plus qu'un enfant a renversé une boisson, elle m'appelle la Miss. Chouchou enfile le tablier de la partie café du lobby et prétend qu'elle est débordée par une autre tâche. Elle encaisse le client et s'en plaint auprès d'une équipière. « Tu vois, ça faisait 2 minutes qu'il attendait et j'ai été obligé de m'en charger. C'est pas possible, ça. Dès que quelqu'un attend, il faut l'encaisser le plus vite possible. » Chouchou dit « Tu me feras le tour de... J'ai envoyé machine sur les tables, tu me fais les toilettes, tu me fais les tables, tu me fais les boiseries avec un petit chiffon. Nous travaillons dans le salon de Chouchou, un personnage omniprésent. »
Effectivement, il peuple tout un chapitre qui s'appelle d'ailleurs « En salle » comme le roman. Et c'est un passage sur le centre même du fast-food, puisque en fait ce roman est vraiment divisé par les différents postes auxquels est affectée la narratrice. Et il y a vraiment ce chapitre-là en salle où en fait on apprend, on découvre un poste un peu ambivalent, puisqu'il y a effectivement ce que j'appelle les périodes de rush, forcément avec les midis, mais aussi les longues périodes d'attente qui suivent et qui sont insupportables et où Chouchou est très présente puisque c'est la manageuse de la salle et donc un personnage qu'elle côtoie fréquemment puisqu'elle s'y trouve souvent.
Et le client est roi, il ne faut surtout pas perdre de temps, il faut le satisfaire rapidement et que l'argent rentre dans les caisses. Exactement. Et alors plus loin, vous avez une belle phrase aussi, c'est « Chouchou est une sorte d'automate qui fait chaque jour son tour de piste ». C'est magnifique, mais c'est aussi quelque part un vrai flic.
C'est une sorte de... Ouais, moi, j'aimais bien l'imaginer en articulé, puisqu'il y a vraiment une sorte d'aller et de retour comme ça, où elle va fumer sa cigarette à l'extérieur, elle revient. Il y a quelque chose de vraiment en fait, très tournant, en fait, et même dans les gestes de l'équipier. L'équipier qui refait un peu chaque jour les mêmes choses, qui a ses affectations. Il y a vraiment quelque chose qui devient complètement autonome et presque indépendant de la personne qui les fait, en fait. C'est des gestes qui vont être répétés sans aucune appropriation même de ce geste.
Alors, c'est un livre sur l'aliénation dans le travail et le symbole de l'aliénation, et on pourrait dire même de la malbouffe, ce sont les frites. Et vous dites, par exemple, aux frites, l'automatisme m'empêche de réfléchir. C'est évident.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a autre chose, c'est que l'automatisme empêche de réfléchir, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça prend en charge la pensée. C'est-à-dire que les périodes de vitesse ne sont pas les plus difficiles au fast-food, c'est véritablement les instants de pause et les moments justement en salle où il y a un grand espace vide à un instant qui forme en fait vraiment une sorte d'angoisse, on pourrait dire, alors que les moments de vitesse et de rush sont, eux, pour le coup, presque inexistants en fait, du point de vue de la pensée.
Alors, vous l'avez dit, elle est manageuse, Chouchou. Et puis, il y a un instant crucial, ça s'appelle l'évaluation, comme à l'école d'ailleurs, de la manageuse. Elle ne la signera pas et finira dans l'eau stagnante. C'est de la lassitude ou c'est de la révolte ?
Je ne sais pas trop. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de révolte du côté de la narratrice dans ce roman. C'est quelque chose qui est assez peu présent. J'avais très envie de garder justement cette passivité-là intacte, puisque quand on rentre dans un travail, enfin en tout cas, quand moi je suis rentrée dans un travail et quand la narratrice de ce roman rentre dans un travail, elle n'est pas du tout dans une perspective de révolte. Elle est plutôt dans une acceptation, enfin dans l'acceptation même de ce qui va être son travail pour plusieurs mois. Mais ce que vous dites sur l'évaluation, ça m'intéresse parce que ça me rapporte aussi à l'enfance, aux enfants qui se font noter à l'école en quelque sorte, parce qu'effectivement les employés du fast-food sont notés sur certaines tâches, comme les enfants pourraient l'être et redouter la mauvaise note qui pourrait tomber.
Donc on imagine aussi des jalousies entre les salariés, et toi t'as eu 17 et moi j'ai eu 15, etc. etc. Donc c'est une manière de manager le personnel un petit peu particulière et en même temps qui est, je crois, quelque part interdite par la loi, et c'est une bonne chose. En tout cas, on n'écrit pas et c'est difficile de faire signer une évaluation à un personnel, et c'est une bonne chose. Alors, vous l'avez dit, votre livre, il est construit en fait en 4 chapitres. L'entretien, tout d'abord, qui ouvre ce livre, en salle, le bien nommé, puis dans l'huile, là on est dans les frites, vous l'avez compris, et puis au drive. En salle, ne vous voudra pas, Claire Baglin, l'estime des KFC, McDo et autres Quick, mais vous ouvre les portes de la reconnaissance littéraire, comme ici à Manosque. Vous appréciez ?
Je suis ravie en tout cas que le roman trouve son écho et suscite un peu d'enthousiasme, en tout cas surtout sur l'alternance. En fait, je suis très ravie, enfin je suis vraiment ravie de pouvoir parler en fait d'écriture aussi et de comment les deux s'entrelacent, et ça me touche beaucoup. j'apprécie.
L'écriture, bien sûr, mais aussi le sens de votre livre, qui est un livre particulier, qui nous éclaire sur l'univers des fast-foods et plus largement sur celui du travail. Votre livre aussi, Claire, est cité actuellement pour plusieurs prix littéraires. Là aussi, c'est une reconnaissance pour vous.
Bah oui, effectivement.
Alors évidemment, on attend votre second opus. Il y a quelque chose qui est en préparation, après, en salle ?
Oui, je crois que je travaille beaucoup et
vous pouvez
travaille
le
un
dire
peu
ou pas.
Comment ?
Vous pouvez le dire ou pas ?
Non, je suis sous le coup de la...
Très bien, la réserve. Très bien, on va attendre, en tout cas nous, avec impatience, votre second opus. En salle, comment vous est venue cette idée ? Vous allez souvent dans les fast-foods, vous-même ?
Pas du tout, non, absolument pas. C'est vraiment plutôt une expérience de travail qui m'a menée à ça. Mais au départ, c'était vraiment, en tout cas, le souhait d'un récit sur le travail du père, en fait. C'est-à-dire le souhait d'un récit autour de l'usine. Et en fait, comme il y avait une incapacité de ma part de réussir à saisir cette matière-là, qui était vraiment très brute et presque impossible, en fait, à restituer, ça a été un travail au fast-food pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises, qui m'a peut-être permis en fait d'accéder à cette histoire ou du moins d'avoir un angle vers lequel l'aborder. Et ça, c'était très important. Et ça, moi, je n'imaginais pas écrire un jour sur le fast-food. Et c'est en fait ce travail-là qui m'a permis aussi d'accéder à l'écriture de souvenirs. Alors pas forcément les miens, mais l'écriture de souvenirs, tout à fait.
Vous avez évoqué le père, Jérôme le père, qui est ouvrier et donc qui lui aussi est en premier est aliéné à l'usine et qui passe ses week-ends à récupérer du matériel dans les déchetteries pour pouvoir les réparer, parce que c'est une famille qui ne roule pas sur l'or en plus. Il y a de l'observation dans votre livre.
Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai que, en fait, le père et sa récupération, il y a une forme de passion un peu poursuivie après le travail. Parce que le père, dans ce roman, et donc dans la maintenance automobile, il répare les robots. Et en fait, il y a vraiment une sorte de travail filé dans le quotidien, puisqu'en fait, on a cet instant où le père ramène aussi à la maison tout un tas d'objets électroniques à réparer. Et c'est la réparation qui est très importante. Alors même que dans le roman, on observe justement que le père n'arrive pas toujours à réparer ses objets. Et là, on a encore une fois un rapport à l'enfance, puisque les enfants sont sans cesse déçus.
Avec également une plongée dans l'univers des grands-parents. Ils ne sont pas terribles, ces grands-parents. Hein.
C'est l'accumulation, moi, qui m'intéressait. C'était l'accumulation d'objets et l'encombrement, en fait.
Et je crois surtout, de dire aux enfants, ne gênez pas. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. C'est des grands-parents fouettards.
Non, mais c'est vrai que c'était un peu une atmosphère sombre, en tout cas. Enfin, moi, c'était surtout sur les objets, en fait. Parce que comme les objets étouffent les lieux et en fait, peuvent faire écho avec la salle du fast-food, puisqu'on a une véritable équipière qui s'attache à ranger, à mettre en ordre, à faire place nette, en quelque sorte. Et à cela répond effectivement les objets, l'encombrement de l'appartement familial et celui des grands-parents.
Il y a également une brève histoire d'amour, enfin, en tout cas un flirt qui se dessine avec un garçon qui va investir notamment dans un immense écran pour pouvoir se divertir.
Alors oui, effectivement, c'est un passage de la fin où en fait on arrive à un instant où la narratrice des souvenirs, on va dire, devient adolescente et arrive dans une nouvelle maison. Alors c'est quelque chose de très différent et qui amène une autre thématique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit en premier quand on rentre chez des gens qu'on ne connaît pas, que ce soit d'ailleurs des amis ou des personnes avec qui voilà, y a plus d'affinité, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment rentrer dans un autre lieu, parce que la narratrice enfant reste quand même beaucoup dans le cercle familial. Il faut en sortir pour se rendre compte aussi un peu de ce dans quoi on évolue, dans quoi on grandit.
Il y a une scène croustillante aussi, c'est quand il faut déménager ce grand écran, où effectivement c'est difficile de passer dans un escalier. Et donc là aussi on se demande, on se dit, Claire, vous avez vécu ce genre d'événement particulier, de trembler un piano ou un grand écran ?
Ça je laisse à l'observation de chacun, mais plus précisément c'est un meuble à DVD.
Oui, donc c'est peut-être encore plus gros.
C'est un gros meuble à DVD que la mère du petit ami chez qui on visite veut déménager une après-midi avec ce moment où en fait la narratrice voit ce meuble à DVD neuf dévaler les escaliers et s'écraser en bas avec une sorte d'impuissance de se dire un décalage avec les habitudes et les façons de faire de chaque famille, en fait.
Et comme si l'évasion se faisait sur un grand écran et pas du tout dans la vie courante, que ce soit avec des relations amoureuses ou autre chose. Claire Baglin, on arrive à la fin de notre entretien. La question essentielle, pourquoi est-ce que vous écrivez ?
Je crois que c'est pour sauver ou pour perdre, peut-être pour perdre un petit peu de ce que j'écris en premier lieu, c'est-à-dire souvent je perds des feuilles en fait, donc je crois que c'est intéressant de perdre certains éléments, vous en le souvenir aussi, peut-être pour conserver les blancs du souvenir, on va dire, pour conserver et écrire ce qui s'écrit entre les blancs de ce roman en tout cas, dans l'alternance même du souvenir et du fast-food.
Vous êtes dans la sélection ?
Je suis dans la sélection, oui.
Attention, parce qu'après, il y a l'évaluation. Hein.
C'est ça, et dans l'ordre, oui.
En tout cas, la mienne d'évaluation, elle est ultra positive. C'est un roman qui fait du bien, parce que bon, on se retourne sur à la fois notre enfance, quelque part, la vie active, évidemment, avec ses conditions très particulières et très pesantes, mais aussi sur la malbouffe. Il y a des phrases terribles sur les frites, sur la manière de les présenter. D'ailleurs, la narratrice se blesse à un moment, mais il faut quand même continuer à travailler. Donc c'est très, très particulier. Et puis elle va glisser aussi sur une pièce savonnée. Enfin bref, il y a des tas de choses qui me font penser que c'est du vécu quelque part, mais vous avez déjà eu la réponse à cette question de manière assez, assez évasive, et on va rester dans ce côté mystérieux. Vous êtes présente sur les correspondances de Manosque, c'est la première fois que vous venez à Manosque ?
Oui, tout à fait.
Vous découvrez ce festival ?
Oui, avec grand plaisir, et d'ailleurs la maison de Jean Giono aussi, que j'ai pu voir hier.
Avec beaucoup d'émotion, je suppose.
Oui, tout à fait.
Il y a de gros travaux qui vont se passer à cette maison dans les années qui viennent, là, et c'est très, très important. Vous avez participé à des rencontres dans le cadre du festival aujourd'hui ou...
Ça va être celle de 14h.
À 14h
14h30.
Avec un autre...
Avec deux autres invités, donc c'est Diatti Diallo qui publie Deux secondaires qui brûle au seuil et Adrien Bels chez l'Iconoclaste avec Tibi Lablanche.
Donc très bien, et c'est ça aussi le point fort des correspondances et ces échanges qu'on peut avoir avec les auteurs. Je rappelle votre roman Claire Baglin, En salle, c'est paru aux éditions de Minuit et on vous souhaite le meilleur pour ce qui est de la littérature.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je vous en prie.